Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et ce dimanche, je suis seul, seul, tristement seul pour vous analyser Monday Night Raw et SmackDown. Alors du coup, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Salut Wingreen qui vient d'arriver, Lady, Camille. Alors aujourd'hui, profitez-en hein, pour participer, poser des questions. Dites-moi s'il y a des problèmes de son, dites-moi. Si ça bug, etc. Je pourrais pas faire grand-chose, mais comme ça au moins je serai informé. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez profité de ce beau week-end de catch que vous avez peut-être pu voir All-In. Si vous l'avez vu, ne spoilez pas parce que je ne l'ai pas vu encore. Merci Camille, le chat est avec moi. C'est très gentil. Alors, tout fonctionne, on est bien. Alors, écoutez, c'est parfait. Je vais aller peut-être fermer. Avant que ça me fasse déconner, ce petit truc ici, bon, je crois que ce sera même pas nécessaire. Je vois que le chat apparaît, tout c'est super. Eh ben écoutez, on va avancer dans le programme. Je vous rappelle que vous êtes sur Ketchup, que je suis sur Rick, je sais plus si je me suis présenté. On va débriefer l'actu de cette semaine de la WWE. On est le seul podcast réellement indépendant ici, hein. Il n'y a pas d'anciens catcheurs français. On travaille pas pour la New Japan. On est free. Si vous voulez vous soutenir, il y a un petit lien en dessous, hein. Et puis si vous voyez ces t-shirts, hein, et ben vous pouvez pas les acheter. Alors, Monday Night Raw, c'est le 27 août. On était à Toronto. Il s'est passé plein de trucs. On va peut-être commencer par le moins important et puis on ira vers le plus pertinent. Sasha Banks, voilà, truc pas important. Sasha Banks, accompagnée de son petit ami un peu spécial, la Billy, elle a vaincu Dana Brooke. Dana Brooke, qui était pourtant fortement soutenue par Apollo Crews. Apparemment, il se passe quelque chose entre les deux. C'est une petite histoire qui démarre un peu en bas de carte. Titus O'Neil était là, évidemment. Hein, tout ça, c'est le trio Titus Worldwide. Donc le match était nul, hein, évidemment, parce que Dana Brooke c'est quand même pas terrible. Voilà, une petite défaite. Sacha et Bailey, ça a l'air de bien aller entre eux. Hein. Tout va mieux, tout est oublié. Savassi chez la Titus Worldwide, nous dit Wingreen. Effectivement, mais peut-être que ça permettra un petit peu le passage en solo d'Apollo Crews, qui serait peut-être temps qu'il nous montre un peu ce qu'il sait faire. Ensuite, nous avons un package vidéo. Enfin, c'est pas dans l'ordre de l'émission, hein, mais c'est dans l'ordre des priorités. Un beau package vidéo autour de l'affrontement entre Triple H et l'Undertaker. On a une tonne de superstars, de légendes qui sont là pour donner un peu leur avis sur la question. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a DDP, il y a le Big Show, il y a même Jeff Jarrett qui est là. Je sais pas si on n'a pas Shawn Michaels qui est là dans le coin aussi. Voilà, toute une tripotée de talents. On essaie de nous hyper pour le Super Showdown qui se passera en Australie où il y aura cet ultime affrontement entre Triple H et l'Undertaker. On est content pour les Australiens. Je me demande ce qu'ils vont réussir à sortir comme match. Undertaker, c'était pas trop dégueulasse encore contre Rusev la dernière fois. On voit qu'il peut catcher quand même un bon moment. Triple H, il aime bien faire des affrontements qui durent une bonne demi-heure. Voilà, je suis un peu comme toi, Camille. J'ai pas vraiment envie de le voir, mais j'ai quand même très envie de le voir. C'est ça la WWE, hein. On nous hype sur des trucs qu'on penserait qu'on verrait plus. Et puis on se rend compte qu'on a quand même envie de les voir. Voilà, je suis curieux de la performance de notre ami de l'Undertaker et de voir si Triple H va pas se lancer dans un truc qui va durer une demi-heure. Mais bon, ça risque de ressembler pas mal à l'affrontement Cena-Triple H qu'il y avait eu en Arabie Saoudite. Hein. Je pense qu'on aura à peu près quelque chose dans le même genre. 30 minutes de Taker en 2018, l'horreur, nous dit Wingreen. Je sais pas, c'est l'Undertaker quand même, l'horreur, l'horreur. 30 minutes de 30 minutes de Dana Brooke ou 30 minutes du Riot Squad, voilà, ça c'est l'horreur. L'Undertaker, c'est pas mal, il va jouer sa vie dans le match. Hein. Un botch, il perd une hanche. Ça fait du suspense quand même. Avançons dans le débat. Ilias, Ilias est dans le ring, il va chanter sa chanson, il va trasher le public un peu trash-talker le public plutôt. Trash-talker le public, c'est pas mal, hein. Mais il est interrompu par pas n'importe qui, une légende de la division féminine, Trish Stratus, elle est de retour. Et si elle débarque au milieu de la chanson d'Ilias, c'est parce qu'elle vient de Toronto, je crois, cette gentille Trish Stratus. Elle aime pas trop qu'on se moque de Toronto. Ilias va pas être très gentleman, hein, il va se moquer un peu de l'âge de Trish Stratus. Trish Stratus qui va lui mettre une baffe dans la gueule. Voilà, faut pas le dire qu'elle a 60 ans, c'est un secret. Là-dessus, il y a Ronda, Rousey et Natalia qui débarquent. Ça en est fini pour Ilias hein, qui rentre au vestiaire après s'être fait humilier. Bliss et Alicia Fox débarquent ensuite, puisque normalement ce soir c'est Natalia contre Alicia Fox. Elle aussi elle se moque de l'âge de Trish et elles annoncent qu'elles ont une nouvelle alliée qui va débarquer ce soir même, une certaine Mickie James qui a apparemment un passif avec Trish Stratus. Donc voilà, toutes les filles sont là dans le ring et puis on a le match entre Natalia et Alicia Fox, qui est évidemment gagné par Natalia sur Sharpshooter. Un match évidemment dégueulasse. Donc Trish Stratus, elle était aussi venue pour annoncer qu'elle allait affronter Alexa Bliss à Evolution, ce dont on est tous au courant, je crois. Voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, on a un selfie dans les coulisses avec les Bella Twins qui nous annoncent qu'elles sont de retour à Monday Nitro et à SmackDown, à WWE. Pas sûr qu'on est prêt de les voir catcher tout de suite, mais en tout cas, elles sont officiellement de retour. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, c'est que, ou si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, c'est que Ronda Rousey, elle n'a pas eu une ligne de dialogue de tout le segment, ce qui a tendance à prouver qu'elle n'hésite pas à s'effacer au profit du reste du casting de la division féminine. Et ce qui est, je trouve, plutôt tout à son honneur. On avait eu clairement la semaine dernière un segment où elle expliquait qu'elle voulait que les filles soient mises en avant. Ou, enfin, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou si c'était peut-être il y a 2 semaines quand elle a cassé le bras de Stephanie McMahon. On sent qu'elle n'a pas envie de tirer toute la couverture à elle, Ronda Rousey, et je trouve que c'est plutôt tout à son honneur. Même si au final, bon, moi j'en ai un peu rien à battre de tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Elle reçoit beaucoup de critiques. Hein, quand vous allez un peu sur les sites de news de catch où il y a des commentaires, il y a beaucoup de fans français qui sont là et qui critiquent le fait qu'elle soit déjà championne, Ronda Rousey, etc., etc., etc. Ben j'ai l'impression que elle est plutôt très respectueuse du roster féminin et du coup que ça se ressent un peu dans ces segments qui nous annoncent tout doucement la construction d'un pay-per-view Evolution. Donc on a déjà 2 gros matchs, Trish Stratus contre Alexa Bliss. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et normalement, il y aura Ronda Rousey contre Nikki Bella. Nikki Bella, ça fait longtemps qu'elle n'a pas catché. J'espère qu'on aura un truc potable. Bon, généralement, quand c'est avec Ronda, ils font le boulot. Les Twins ont un match lundi, nous dit Camille, donc demain. Et oui, parce qu'on a fait très tard hein, ce podcast. Alors pourquoi on l'a fait aussi tard? Bah, parce qu'on a des soucis d'organisation, hein, tout simplement. Il y a des gens qui sont en vacances, etc. Le bon amiral est parti à travers le monde. Donc, c'est un peu difficile de s'organiser pour peu qu'on ait un petit souci technique quelque part. Donc voilà, j'ai pris sur moi de faire ça tout seul aujourd'hui, ce qui est moins fun, mais c'est quand même. On va quand même arriver jusqu'au bout. Lenny à la WWE ou en général? Lenny. Je suis pas Kaby. Alors, avançons. Roman Reigns. On va arriver dans le vif du sujet. Roman Reigns, ça c'était l'opener du show. Il a donné rendez-vous à Braun Strowman. Dans le ring ce soir, hein, au début de show. Bah écoute, il se démonte pas, hein. Braun Strowman, il débarque. En gros, il annonce que bah, ce soir, il cachera pas la manette, parce que souvenez-vous, la semaine dernière, il s'était fait défoncer par le trio du Shield, hein, Rollins, Ambrose et Strowman. Et que donc, bah, forcément, ils vont intervenir ce soir, donc ça sert à rien qu'il cache la manette ce soir, comme il l'avait promis. Il y a Roman Reigns qui se fout un peu de sa gueule, il lui dit ouais bon tu parles toujours de tes mains là, on va avoir get these hands, on va avoir ses mains dans la face là, mais moi mes mains à moi elles savent ce que c'est que d'avoir tenu toutes les ceintures de la WWE. Bon il est toujours copieusement hué hein, Roman Reigns. Mais donc tout ça c'est pour booker un match à Hell in a Cell puisque Strowman lui dit ce qu'on va faire c'est qu'on va aller, je vais cacher ma mallette. Pour un match à Hell in a Cell, et donc dans la cage d'acier, hein, ce sera un match, un Hell in a Cell match, entre Reigns, le champion de l'univers, et Braun Strowman, l'aspirant monsieur Monster in the Banks. Ah, c'est Lenny qui nous demande qui est notre catcheur préféré, d'accord, j'avais sauté sa question. Quoi, c'est Becky Lynch ta catcheuse préférée, Camille? Incroyable! Et Hiromu Takahashi. Oh le pauvre Hiromu. Oh non. Moi, à la WWE, je pencherais pour Kevin Owens. Et dans le monde, c'est Kazuchika Okada, évidemment. Alors, pour ce qui est de Raw, revenons à nos moutons. Dolph Ziggler et Drew McIntyre débarquent. Et il lance un défi à la team Strowman Reigns, hein, qui n'est pas une équipe en fait, mais les deux sont dans le ring, donc bah, Dolph leur lance un défi. Et c'est Baron Corbin qui débarque, le nouveau General Manager de Raw. Il n'est plus connétable, il est le General Manager actif. Il a remplacé Kurt Angle depuis la semaine dernière. Bah, il annonce qu'effectivement c'est booké pour ce soir le match entre Strowman et... enfin, le match entre Strowman Reigns contre Ziggler et Drew, mais c'est aussi booké le match de championnat à Hell in a Cell. Tout ça est validé. Il fait du bon boulot, ce baron. Eligible qui nous annonce que ce serait Kenny Omega, son catcheur préféré, pour être original, effectivement. Mais il y a beaucoup de très bons catcheurs dans le monde. Et Kenny Omega, c'est difficile de ne pas le mettre dans le top 3 du classement. Hein. Il déçoit rarement. Mais. Revenons à Monday Nitro, ce passionnant Monday Nitro. Donc voilà, le Baron Corbin en pleine action, donc qui boucle le main event ce soir entre Ziggler et McIntyre et Strowman et Reigns, l'équipe de fortune hein, entre les deux rivaux. Et Corbin, bah ça s'arrête pas là, puisque à peu près après dans l'émission, il va affronter Finn Balor. Alors on espérait que ce soit fini cette rivalité, mais non, ça continue. Pour notre plus grand plaisir. C'est la quatrième fois qu'ils s'affrontent en weekly, hein, ces deux-là. Bah, en plus, ça dure longtemps. Corbin bah, finit par se faire déborder par Finn Balor. Du coup, il va aller chercher une chaise. Il matraque Finn Balor avec la chaise. Du coup, il se fait disqualifier par l'arbitre. Mais comme c'est le general manager, il va redescendre du ring, il va aller chercher le micro et il annonce qu'en fait, comme il a beaucoup de boulot, il avait oublié de nous préciser que ce match était un match sans disqualification. Et il demande à redémarrer le match. Et là, il achève Baylor à coup de chaise et il gagne le match. Voilà, effectivement, il est à la rancune tenace, ce bon vieux Baron Corbin, alors qu'il est au top, là, il est pas General Manager de Monday Night Raw. Mais c'est pas grave, hein, il va faire souffrir Finn Balor. Donc voilà, victoire au final de Baron Corbin hein, sur un match qui était en fait un match sans disqualification. Moi j'en ai ras la casquette hein, de ces matchs de Balor contre Corbin. C'est assez long, effectivement, comme le souligne Wingreen. C'est trop long. Bon, le rebond scénaristique est pas mal quand même, le fait qu'à la fin il fasse basculer le match en disqualification. Mais alors ils auraient vraiment dû faire un match plus court. Et puis surtout, elle devrait être finie cette rivalité-là. Hein. Le démon était de sortie, l'ami l'a fessé à Corbin. C'était la fin de la rivalité. Là, on met la charrue avant les bœufs un petit peu. Hein. C'est difficile de s'intéresser à tout ça. C'est du déjà vu, mais en même temps, ça construit encore un peu plus le personnage de Baron Corbin. Il pourra pas dire, lui, qu'on lui a pas donné toutes les chances hein, à la WWE. Bon, il fait plutôt bien le taf hein, En général manager, on va le voir aussi dans la séquence d'après, puisqu'il y a, y a Bobby Lashley qui réclame de la concurrence, hein, il veut de la compétition, évidemment. Baron Corbin lui explique qu'il lui a prévu un match ce soir, mais comme il a beaucoup de boulot, là il se souvient plus trop qui seront les adversaires de Lashley, enfin qui sera l'adversaire de Lashley. Et voilà, donc là je vous ai spoilé, en fait ce soir c'est un match handicap pour Lashley, enfin un match handicap. Il affronte The Ascension. Ascension, évidemment, il explose Ascension, hein. Bobby Lashley. Ce sera pas pour ce soir qu'il se fera humilier. Voilà, on les avait oubliés. L'Ascension, ils sont encore là. Ils servent de punching ball pour Lashley. C'est délicat pour Lashley. Il va falloir lui trouver un adversaire correct qui puisse le mettre en valeur s'ils veulent en faire quelque chose qui monte dans le. Dans le main event, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui s'intéressent à Lashley. Hein. On va le dire nettement, hein. Les gens qui ont un peu de bouteille au niveau du catch, sont peut-être pas forcément fans de Bobby Lashley. Lenny, son favori, c'est Roman Reigns. Ben voilà, ça c'est original. Ascension qui revient pour jobber, ça sert à rien. Ça sert à rien, Win Green. Ça sert à mettre over Bobby Lashley. Et oui, parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose à espérer pour The Ascension. Hein. On va pas arriver, c'est déjà bien qu'ils soient payés. Ils ont de la chance que la WWE ne vire plus personne. Hein, mais ma foi, c'est effectivement difficile pour la division tag team. Et on va le voir justement dans la suite, puisque la B-Team, qui a transformé un petit peu cette division tag team. Ciao Lenny, à plus. The B Team, donc, qui a transformé effectivement cette division tag team en bonne blague. Et bien, ils affrontent ce soir The Revival. Et bien, ils vont perdre contre le The Revival. Ils se prennent deux shatter machines dans la tête. Après le match, le Revival va brandir les ceintures et expliquer que effectivement la division tag team s'est devenue une blague et qu'il compte bien redonner du sérieux à tout ça, redonner un peu de prestige, hein, faire honneur aux aînés, et il compte bien devenir champion. Donc je pense que ça se passera à Hell in a Cell, l'affrontement entre The Revival et The B Team. Alors faudrait que The B-Team il se lève un petit peu le cul quand même. Ils sont rigolos, mais on voit bien qu'ils veulent pas trop faire le taf pour The Revival. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. The Revival, ils ont besoin de faire des gros matchs pour pouvoir se montrer dans toute leur qualité, tout leur intérêt. Il faut qu'ils puissent faire des vrais matchs tag team, construits comme des matchs à l'ancienne. Je pense pas que c'est la priorité de The B-Team, qui a plutôt intérêt, eux, à rester dans le. À laisser la division tag team dans le domaine du comique pour pouvoir avoir un règne un peu plus long, avoir des segments de télé un peu plus longs et rester bien toutes les semaines à la télé. C'est la chance de leur vie, hein, pour Axel, Curtis Axel et Bo Dallas. Donc clairement, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de mettre over The Revival, malgré tout le talent de The Revival. On espère que. Je pense pas que ça va être pour cette fois, pour The Revival, de gagner la ceinture. Je pense que le salut pour eux, ça viendra s'ils sont transférés à SmackDown. Mais sachant que toutes les cartes vont être rebattues une fois que SmackDown sera sur Fox. Donc tout est ouvert. Mais je vois mal le Revival prendre la ceinture à The B Team dans l'immédiat. Ça sera plutôt, à mon avis, pour les Authors of Pain. La division tag team de Raw, c'est le néant, nous dit Camille. Faudrait balayer un peu tout ça et reprendre à zéro. Ouais, c'est pas faux. Là, c'est l'heure de la B team, hein, donc c'est l'heure de la rigolade. Hein. C'est la semaine des vieilles tag team qui job, nous dit Eligible. Voilà, c'est un peu ça, hein, parce que entre The Ascension et est-ce qu'on peut qualifier The Revival de vieille tag team? Bah, tout doucement, ouais, malheureusement. On sait que Vince, il en a un peu rien à foutre, hein, Vince McMahon, de la division tag team en règle générale, ça se ressent un peu en ce moment. Il aime bien un peu les mecs, les bouffons rigolos. C'est un peu la plaie, hein, Bo Dallas et Curtis Axel, mais y a des gens qui aiment, ça fait rigoler. Mais c'est dommage, c'est pas ça qui va permettre à The Revival de monter dans le roster. Allons dans les vestiaires. Allons rejoindre Dean Ambrose, qui après avoir papoté avec Seth Rollins, se retrouve tout seul à regarder dans le vide. Ouais, Dean Ambrose, il est comme ça. Dans les rosters, il regarde dans le vide. Il a l'air de réfléchir. Et il est accosté par Jinder Mahal, qui a rien d'autre à foutre de sa journée, qui est accompagné par son petit frère Singh. Et il propose à Dean Ambrose de lui donner un petit peu des cours de méditation. Voilà, alors il fait un peu son truc là, Shanti, etc. Dean Ambrose, ça lui plaît pas du tout, puisque voilà, il prend une inspiration, il dit, écoute, moi ce que je vois quand je fais mon yoga, c'est que je pense vraiment que je vais te mettre une patate dans la gueule, donc tu ferais mieux de te sauver. Donc, il dégarpifie ça, hein, ce bon vieux Jinder Mahal. Et après, on a un match plus tard dans l'émission entre Dean Ambrose et Jinder Mahal, du coup. Et évidemment, c'est gagné par Dean Ambrose sur un Dirty Deeds, hein, après un match assez classique. Voilà, c'est comme ça qu'on book un babyface, hein, Dean Ambrose, plutôt convaincant. Et Jinder Mahal qui est là pour jobber, ce qu'il aurait dû faire toute sa vie. Eligible nous dit qu'il parlait plutôt des colons. Les fameux colons à SmackDown, eh bien oui, on en parlera plus tard, effectivement, ça c'est une vieille équipe. La nouvelle gimmick de Guru Zen, raté de mal, j'adhère, nous dit Camille Bourg. Je trouve que ça lui va bien, nous dit-il. Moi j'aime bien Jinder Mahal depuis qu'il est de retour à Raw, de toute façon. Il est à sa place, il a gardé son physique super impressionnant. Et donc c'est un peu le bon adversaire idéal pour occuper un peu les babyface dans les weekly. Après, ouais, le truc de Guru Zen, c'est pas le truc auquel j'adhère le plus, mais voilà, au moins ça permet d'avoir des interactions dans les coulisses assez simplement, sans être trop tiré par les cheveux. C'est un peu raciste, mais pas trop. Le main event, Roman Reigns et Braun Strowman, donc affrontent Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Et donc c'est là que tout se passe puisque c'est Roman Reigns qui fait le gros du match. Il est un peu isolé par l'équipe Ziggy et McIntyre. Et au final, quand il va faire le changement, Strowman le trahit. Il laisse les deux autres le passer à tabac. Il rappelle à Roman Reigns qu'il lui avait bien dit qu'il n'en avait pas fini avec lui. Et là, il le défonce. Il y a Seth Rollins qui débarque et qui se fait passer à tabac par Drew McIntyre et Ziggler. Et ensuite, il y a Dean Ambrose qui débarque aussi. Alors, je crois que c'est Dean Ambrose qui débarque en premier. Enfin, les deux se font tabasser et on a les trois triomphants, Strowman, Ziggy et Drew, avec Strowman donc, qui se rallie à Ziggler et Drew McIntyre. Donc c'est le heel turn de Strowman. Hein. Si les gens se posaient des questions, est-ce que c'était Roman Reigns et le Shield qui avaient tourné heel ou Strowman? Évidemment, c'est Strowman. Il n'y a pas de turn en vue, que ce soit pour Rollins, Ambrose ou Reigns. Je pense qu'on va capitaliser sur le Shield pendant un bon moment. Roman Reigns y vend le plus de marchandises. Donc voilà, faut vendre des t-shirts, faut vendre des mugs. Si ça passe en heel, ça va pas le faire. Voilà, hein, on nous a expliqué que si la semaine dernière, d'ailleurs, Roman Reigns a été sauvé par Ambrose et Rollins, c'est de l'initiative de Rollins et Ambrose eux-mêmes. Ils donnent pas les ordres, hein, Roman Reigns, c'est les autres qui viennent le sauver. Et on voit qu'ici, effectivement, ils sont mis en totale improvisation, un après l'autre, comme des débiles, et ils se sont fait défoncer. Voilà, Strowman, un architecte, un Machiavel, ça fonctionne pour lui. Le main event m'a laissé de marbre, nous dit Camille. Ouais, pas loin d'être comme toi. Le but de la réformation du Shield, c'est uniquement pour vendre des goodies et aussi pour que Roman Reigns se fasse pas huer. Hein. Ça, c'est aussi toujours l'objectif, hein, puisque là, il prend la pop, comme on dit. Hein. Il prend la popularité, voilà, de Seth Rollins en particulier, d'Ambrose aussi. On est revenu là où on nous avait laissé avant que Dean Ambrose se blesse, hein, il y a quelques mois. Il y a un truc que j'ai pas mis dans mes notes, qui est quand même très important, c'est l'Open Challenge pour le titre intercontinental. Wingreen nous dit quand la seule motivation de la gestion de la story c'est le pognon, c'est problématique. Mais oh, Wingreen, c'est tout le catch qui est comme ça. Je bois un petit peu. Donnez-nous des sous. Regardez ces t-shirts. Oui, mais le but du catch c'est de faire du pognon quand même, hein, Wingreen. Je sais que toi tu es plutôt fan du wrestling, hein, de 205 Live et du catch indie. Maintenant la WWE, faut bien voir qu'ils jouent pas sur le même level, hein. Mais je comprends que ça puisse te poser problème, hein, ça c'est sûr. Il faut être un peu cynique pour être un fan complet de la WWE, je pense. Le merchandising et tout ça, ça fait partie du truc. Faut voir la WWE comme la locomotive du catch, hein, qui tire tout le monde derrière. Je donnerai des sous si on peut se procurer les t-shirts catch-up. Alors, je vais en parler avec l'office du directoire. Mon bon Camille. Voilà. Sinon, ne me donnez pas d'argent, c'est pas grave. Revenons à nos moutons. Le titre intercontinental. Donc, l'Open Challenge challengé par Seth Rollins. Qui c'est qui débarque? Kevin Owens, évidemment, qui est très en colère. Il est à Toronto, il est quasiment chez lui. Mais il va quand même critiquer la foule. Hein. Il va dire une vraie ville cool, c'est pas Toronto, c'est Montréal. Alors il dit qu'il a vraiment passé un été pourri, qu'il est au bout du rouleau, il devrait être le titulaire de la mallette, il devrait être le champion universel. Tout le monde s'est liqué contre lui. Mais ce soir, il va pas partir sans ceinture. Et donc, il y a un match qui s'ensuit qui est très très bon contre Seth Rollins, avec notamment un super moonsault là de Kevin Owens. Mais c'est quand même Seth Rollins qui sort victorieux sur un curb stomp. Et après la pub, on se retrouve avec Kevin Owens au milieu du ring sur sa chaise et qui nous dit simplement « I quit ». Je m'en vais. J'abandonne. Il a été enlevé du roster de la WWE sur Internet. Apparemment, il n'est plus là. Il a jeté l'éponge, ce bon vieux Kevin Owens. On nous explique quand même que Corbin va essayer de négocier avec lui pour le faire revenir. Joli encore travail de Kevin Owens, hein, efficace. Bon, ça va être difficile en 2018 de croire que tout ça est réel, hein, puisqu'on a toutes les informations maintenant qui fuitent de partout. Mais en tout cas, on est intrigué pour la suite des opérations. On va attendre le retour avec impatience de Kevin Owens, en espérant que ce soit surprise, en espérant que ce soit vers le haut du main event. Owens Rollins, ça c'est du bonheur, nous dit Wingreen. La promo de Kevin Owens est très cool. Le match est vraiment bon. Et le I quit est très intriguant. Et l'acting d'Owens, génial. Effectivement, il faut quand même le dire que Kevin Owens, c'est un des meilleurs performeurs, des meilleurs superstars de Monday Night 3 à tous les levels. Hein. C'est souvent lui qui sauve les shows. Salut à HD qui vient d'arriver. Il n'est pas annoncé en Australie, Kevin Owens, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas entendu. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'on a au Super Showdown? Je crois qu'on a un 3 contre 3 avec le Shield contre Ziggler, Drew McIntyre et Strowman. On a donc Triple H contre l'Undertaker. On a aussi le titre Cruiserweight avec Buddy Murphy contre Cédric Alexander. C'est ce qui devrait plaire à Wingreen, je pense. Sachant que Buddy Murphy joue à domicile. Hein. Je crois qu'il est australien ou néo-zélandais, un des deux. Ça risque d'être un très bon match si on les laisse dérouler. Il est assez exceptionnel dans le ring, Buddy Murphy. Et puis Cédric Alexander, beaucoup de talent, hein, malgré son manque de charisme. Non, non, je crois pas qu'il ait annoncé Kevin Owens pour l'instant. Je pense qu'ils vont la jouer finement. Hein. Il va sûrement fermer son Twitter, etc. Il est aussi Murphy, australien. Ouais, on est d'accord. Australien et talentueux. De toute façon, c'est un peu un des pays en vogue au niveau du catch, l'Australie. Voilà, donc Monday Nitro, la grosse nouvelle, effectivement, le heel turn de Braun Strowman et Kevin Owens qui quitte la WWE, du moins scénaristiquement, point de vue qui est faible. Ensuite, eh ben, c'est l'heure de passer. Je vais peut-être vous donner le mot de la fin. Un top, un flop, une note. Évidemment, j'ai rien préparé. Alors, si vous avez un top, une flop, dites-les moi dans les commentaires. Alors, le top, on va le donner à Kevin Owens, hein, évidemment. Ça va être difficile de faire autrement. Le flop, pour moi, c'est le énième match entre Corbin et Finn Balor. C'est plus possible, il faut arrêter. Et la note, alors moi j'aime pas trop donner les notes. Un bon 3. Allez, on va passer à SmackDown. SmackDown du 28 août. C'était toujours à Toronto. Alors que Camille nous donne son top. Kevin Owens, évidemment. Le flop, le main event. 2,75. Tu es plus dur que moi, Camille. HD Owens. Owens qui fait l'unanimité, ben on dirait bien. Le turn de Strowman est un flop. Et c'est Owens qui est au top. Hein, pour tout le monde. Allez. Chapeau, Kevin Owens. Et il va falloir faire mieux cette rivalité entre Strowman et notre ami le beau Roman, hein, avec son nez en plastique. Alors, SmackDown, comme je vous ai dit, ça démarre avec le New Day qui fête sa victoire, son énième titre de champion, et qui est invité à la fête, hein, où on mange des pancakes évidemment. King Booker, heureusement, qui vient et qui nous fait une super promo, où il adoube le New Day. Biggie est pas content parce qu'il n'a pas le droit à un surnom, et son surnom c'est juste Big. Ils vont aller aux commentaires pour le match qui suit, qui est un triple threat, une triple frite. Donc les colons, la vieille équipe hein, dont on parlait un peu plus tôt, qui est de retour. Ils affrontent Gallows et Anderson, qu'on avait oublié, mais qui sont toujours là. Et The Bar. Évidemment, c'est The Bar qui vole la victoire après un double backstabber des colons sur Gallows. Victoire de The Bar qui vont affronter le gagnant de la triple frite de la semaine prochaine qui oppose les Usos à Sanity à une nouvelle équipe que Paige annonce dans les vestiaires auprès des intéressés. Rusev et Aiden English font désormais officiellement partie de la division tag team et donc ils feront partie de cette triple frite. Est-ce qu'ils sont favoris? Je ne sais pas. Il y a quand même du beau monde à hein, SmackDown au niveau des équipes. Hein. Sanity, les Uso, Rusev et Aiden English, The Bar, Gallows et Anderson et The Colon, ça pourrait donner des matchs magnifiques. D'ailleurs, ça donne toujours des matchs de qualité. C'était encore un bon match ce soir. Voilà, Colon's Bar Club, c'était un sympa comme match, nous dit Wingreen. The Bar qui gagne, c'est cool, effectivement, c'est cool. Voilà, les trucs s'écrivent tout seuls. Hein, ils ont leur équipe d'anciens champions qui est blessée. C'est pas grave, ils peuvent rebondir juste en faisant des espèces de petits tournois un peu péraf comme ça. Mais les mecs sont tellement talentueux dans le ring que à chaque fois, ça fonctionne. On va encore féliciter Cesaro qui, partout où il va, transforme le plomb en or, hein, j'ai envie de dire. Puisqu'on va sentir sa touche évidemment dans ce match. Hein, voilà, Cesaro, c'est le patron de la division tag team. Bon, il est bien secondé. Hein, Gallows et Anderson, c'est du lourd aussi. Les colons aussi, c'est des professionnels. Mais il y a toujours un grain de folie en plus quand il y a des matchs avec Cesaro. Camille Bourg a un problème avec la présence des colons. Ma foi. Faut bien qu'ils reviennent un jour. Ils sont pas au niveau, nous dit-il. Je sais pas, ils sont plutôt. Moi, je trouve qu'ils sont un peu sous-estimés, les colons, mais. C'est sûr que ça va être difficile pour eux de s'imposer, vu ce qu'il y a en face. Mais je les trouve pas plus mauvais que si on met, par exemple, dans Sanity, Eric Young et Alexander Wolfe, par exemple. Mais sont leur chance, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Ça paye pas de pain. Moi, je les avais vus en house show, ils étaient fort sympathiques. Avançons. Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est définitivement taré, hein. Il vient avec son maquillage, il a écrit RKO sur la gueule. Et il vient défier Randy Orton. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, on est toujours sur les colons, hein, nous dit Camille. Je dis juste que par rapport aux autres, ils sont en dessous. Ouais, c'est pas faux. Jeff Hardy, donc il vient défier Randy Orton. Randy Orton débarque et il accepte le challenge de Jeff Hardy. Ils vont pas s'affronter ce soir, mais ils vont s'affronter à Hell in a Cell dans la cage. Bienvenue en 2006, hein, Jeff Hardy contre Randy Orton dans la cage. On attend évidemment un gros spot de Jeff Hardy. Il y a du Star Power, qu'est-ce que vous voulez? Il y a du Star Power, il y a du Hell in a Cell. Moi j'ai envie de voir ça. On est un peu comme dans le truc Triple H Undertaker, bon avec des mecs qui sont un peu plus frais quand même. Ouais, j'espère qu'ils vont nous faire. Après les jolis trucs qu'ils nous ont fait là, ça allait vraiment bien cette rivalité là entre les deux, avec un Randy Orton vraiment psychopathe et un Jeff Hardy aussi un peu frappadingue, mais dans le mode plus héroïque. C'est plutôt tout bon hein, ce qu'ils nous font là. Même si ça. C'est un remake un peu de ce qui a été fait il y a quelques années. C'est du bon boulot. Ils se sont déjà affrontés pas mal de fois, mais jamais dans un Hell in a Cell, nous dit Camille, Hardy et Orton. Eligible est chaud pour le match, après la séquence de la semaine dernière, effectivement. Là, c'est un peu un sans-faute, hein, cette rivalité-là. Par contre, Nakamura, il est plus là. Hein. Il est parti avec la ceinture. Je sais pas trop ce qu'il fout. C'est un peu étrange. Vous savez, je vous avais dit, hein. Si vous avez écouté les émissions, je vous avais dit que Nakamura il aurait une feud avec personne au final et que ce serait entre Randy Orton et Jeff Hardy. Je ne m'étais pas trompé. On retourne dans les vestiaires. Hartrouf veut toujours affronter Carmella pour s'octroyer un title shot. Malgré les conseils de Ty Dillinger qui essaye de l'en dissuader. Le fantôme Nakamura, effectivement. Hein. Où est-ce qu'il est passé? Ça c'est très drôle ce qu'ils font avec Hartrouft. Hein. Voilà, faut pas en faire trop, mais ça c'est vraiment malin. Ils ont des meilleurs scénaristes à la SmackDown, hein, je pense quand même. Nakamura, ils vont sûrement lui faire une feud de transition contre quelqu'un random, bah sûrement Hartrouft, je suppose, même s'ils sont déjà affrontés. Je sais pas qui c'est qui reste comme babyface à WWE, susceptible d'aller vers la ceinture. À SmackDown, du moins, vers la ceinture US. Et Hartrouf, s'il me fait de plus en plus penser à Yano. Ouais, voilà, on est dans les trucs. On est dans le comedy wrestling, mais rigolo. Tout dans la comédie avec du génie dedans. Bah, c'est tout à fait ça. Voilà, un mec qui a tout compris, hein, Hartrouf. Hein. Il sait que c'est passé son heure de gloire, donc il se met dans le comedy wrestling. Surtout que si vous avez déjà regardé, par exemple, les émissions là où ils sont sur la route, là, je sais plus comment ça s'appelle, On the Road, je crois, ou un truc comme ça. On voit qu'il en a rien à foutre en fait. Hein. Et lui, sa passion, c'est la musique. Et il vient ici comme il vient au Turbin. Donc voilà, il vient, il fait sa blague, il a même pas besoin de catcher. Tout est gagné pour lui. Ride Along, voilà. C'est ça, merci Camille, cette émission. J'aime pas du tout cette émission-là. Alors, un peu plus tard dans l'émission, Billie Kay bat Naomi. Voilà. Je crois qu'elle s'est fait battre par Peyton Royce la semaine dernière, hein, Naomi déjà. Voilà, bon, bah, ça c'est. On essaie de mettre un peu over les Australiennes. Il y aura sûrement quelque chose pour elles pour le Super Showdown, hein, puisqu'elles vont se battre à domicile. C'était pas un bon match, hein, évidemment, mais bon. C'est ça, c'est la division féminine. Daniel Bryan et Brie Bella. Le couple débarque dans le ring. Ils viennent critiquer les talents d'acteur du Miz hein, qui avait joué la retraite la semaine dernière. Hein. Il disait qu'il jetait l'éponge, etc. Tout ça était faux. Voilà. Et Daniel Bryan nous dit que The Miz est un mauvais acteur qui peut même pas jouer les tough guys, les gros bras. On devrait se mettre. Alors, on devrait mettre en équipe Naomi avec Asuka pour affronter les deux. Ouais, voilà, ça ce serait judicieux. En plus, ils se connaissent bien, Asuka et les deux Australiennes. Hein. Voilà, Super Showdown, c'est booké par Camille. Tu leur envoies, tu leur faxes hein, à la WWE qui nous fasse ça. Ça sera mieux qu'autre chose. Donc, on est dans le ring. Ce soir, finalement, Daniel Bryan, hein, plutôt de se foutre de la gueule du Miz, il a un match. Il va affronter Andrade Cien Almas, qui est accompagné de Zelina Vega. Donc, évidemment, c'est un excellent match, hein, puisque. Enfin, excellent match. Un très bon match de weekly. Cien Almas et Daniel Bryan, ça fonctionne extrêmement bien. Mais finalement, le Miz débarque avec Maryse et ils attaquent Daniel Bryan. Disqualification de Andrade Cien Almas. On passe Daniel Bryan à tabac et surtout on s'attaque à Brie Bella. Maryse bah, fait également la passer à tabac sous les yeux de Daniel Bryan qui ne peut rien faire. Une image assez choquante de Daniel Bryan impuissant qui est obligé de regarder. Fonctionner sur moi de voir Daniel Bryan incapable de pouvoir aller sauver sa femme. Ça va enrichir encore la rivalité un peu plus. Bon, on sait que pour l'instant le payoff ça va être un match Miz et Brie Bella contre le Miz et Maryse. On pourrait intégrer Andrade Cien Almas et Zelina Vega dans le lot, hein, avoir un triple threat. Bon, ce serait quand même dégueulasse au final, mais ça pourrait être sympa. Bah, c'est bien goupillé cette rivalité maintenant. Bon, on sait que dans un premier temps, on va vouloir passer le match des couples. Ça m'emballe moyennement. Mais encore une fois, c'est très bien scénarisé. On sent la patte du Miz hein, dedans, hein, parce que c'est. On sait que lui travaille beaucoup sur son personnage. C'est moins le cas de Daniel Bryan. Hein. Mais voilà, bah, le Miz fait tout le boulot. Et ça fonctionne. Bryan qui peut pas sauver sa femme. Ça m'a fait penser à Orton qui fait un DDT à Steph alors que Triple H. Triple H est menotté, il peut pas intervenir. Ouais, voilà, on est dans le même registre. Bah, c'est des choses qui fonctionnent. Hein. Des fois, il faut jouer la carte du remake. Un triple mixte, ce serait pas mal, nous dit HD. Effectivement, hein, surtout si c'est Andrade, Cien Almas, Daniel Bryan et le Miz. Miz il est très bon en triple threat. Et puis les deux autres, c'est d'un sacré calibre quand même, Daniel Bryan et Cien Almas. Voilà, fous ça sur la carte, t'es sûr d'avoir un bon match hein, quasiment. Les filles, tu les mets de côté, c'est pas grave hein, si elles font rien. On va pas pleurer, hein. Elles se mettent une baffe à un moment donné, elles se roulent par terre, c'est réglé. Hein. Avançons, avançons. AJ Styles. AJ Styles vient défier Samoa Joe au milieu du ring. Hein. On sait que ça se passe mal entre les deux. Samoa Joe, il arrête pas d'harceler la famille de AJ. Donc AJ Styles, il dit on règle ça ce soir à Toronto. Tu vois ta gueule. Mais Samoa Joe, il apparaît sur le titantron. Il demande au champion de se calmer. Et là, il prend son téléphone. Et évidemment, il appelle Wendy. Wendy, la femme de AJ Styles. Pour s'inviter, tout simplement, au barbecue de l'école. Hein. Il lui dit écoute, garde-moi une place. T'inquiète pas, je t'envoie AJ. Arrête de pleurer. Calme-toi. Là-dessus, AJ Styles va dans les coulisses. Il cherche Samoa Joe sans succès. Il est un peu hystérique. Il manque de frapper un technicien. Très belle séquence, encore une fois, avec Samoa Joe qui joue les Max Caddy. Hein. C'est les nerfs à vif, là, pour AJ Styles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film de Scorsese avec De Niro et Nick Nolte. Il y a Juliette Lewis aussi qui est dedans. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Nerf à vif. Vous pouvez aussi voir le film de, je crois que c'est de 62, avec Gregory Peck et Robert Mitchum, parce que c'est un remake, le film de Scorsese. Il est bien aussi, hein, celui de 62. Voilà, du grand cinéma et Samoa Joe qui fait un très bon Max Caddy. Hein, l'histoire de Nerf à vif, c'est un mec qui a harcelé un ancien avocat qui est harcelé par un mec qui l'a condamné. Qui va le pousser dans ses derniers retranchements. C'est sympa, c'est extrêmement violent. Bon, on est un peu dans le même cas avec ce Samoa Joe qui pousse à bout AJ Styles qui tourne autour de sa famille. Et ça fonctionne, et on aura sûrement un très bon match. Donc c'est annoncé à Hell in a Cell, ce sera pas dans la cage. Mais bon, c'est pas grave, Samoa Joe dans la cage, je sais pas non plus ce qui se fait de mieux. Vaut mieux les laisser s'affronter comme ça dans un match de catch classique. Il n'y a même pas besoin de stipules entre les deux. Faites-moi confiance. Voilà, ça tourne bien autour de la ceinture de champion. Mine de rien, il y a tout qui fonctionne, hein, SmackDown. Et il y a quelque chose qui fonctionne aussi, même si c'est pas de la manière dont on l'attendait. Charlotte Flair, donc qui affronte Carmella. Il y a eu des interviews dans les vestiaires sans grand intérêt juste avant, pendant l'émission. Le match, ma foi, il est pas mal sans plus. Charlotte fait taper Carmella, évidemment, sur le figure 8. Carmella qui s'est plutôt bien défendue. Mais bon, elle n'avait pas. Hein, on est revenu aux choses sérieuses, donc elle n'avait plus l'ombre d'une chance, hein, la pauvre Carmella. Et après le match, qui c'est qui débarque? Becky Lynch. Becky Lynch qui attaque dans le dos Charlotte, qui la passe à tabac, qui prend la ceinture. Elle a une selle. Moi, je récupère la ceinture. Espèce de bitch. Voilà, vous savez ce que ça veut dire, hein. Et Becky Lynch qui reçoit l'ovation de sa vie. C'est extrêmement cool. Excusez-moi, je regarde si ça fonctionne toujours. Voilà, ben, donc la grande question. Erreur de casting, Becky Lynch, est-ce qu'elle devait pas être la gentille dans l'histoire au lieu d'être la méchante? Est-ce que c'est pas la folie, ça, une heel qui se fait popper comme jamais par le public? Bah écoutez, moi j'ai bien l'impression qu'on s'en fout, puisque là, au final, c'était assez magistral cette prestation de Becky Lynch. Camille Bourg nous dit d'ailleurs, il se pourrait que la WWE fasse passer Becky en tweener plutôt qu'en heel pur. Bah, ce serait judicieux. Après, tweener, moi j'ai un peu du mal avec cette expression. Mais clairement, ça va pas se passer. Les gens se retourneront pas contre Becky Lynch. Elle va continuer à être popée. Il y aura peut-être. Ils n'auront même pas besoin de faire grand-chose pour faire tourner Charlotte Hill dans l'histoire. Ce qui pourra relancer le personnage de Charlotte. Il va falloir se laisser porter par le vent. Il y a deux commentaires qui sont pas apparus sur le chat, nous dit Camille. Je crois qu'ils ont été bloqués, je vais voir. Attends. Laisse-moi 30 secondes. Hop, voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, comme je vous disais, gros scandale, ça a beaucoup parlé là, sur le fait que Becky Lynch soit la méchante dans l'histoire alors que normalement c'est la gentille. Il y a même alors Brian Alvarez du Wrestling Observer qui est parti dans un délire là toutes les semaines, enfin toutes les émissions, il sort une fable de La Fontaine là pour expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez les ressorts scénaristiques du gentil contre le méchant avec la morale à la fin, etc., etc. Parce qu'il dit qu'ils sont complètement à côté de la place qu'à la WWE puisque tout avait été amené pour que Becky Lynch soit la gentille dans l'histoire, que finalement c'est l'inverse. Si on prend l'histoire telle quelle, si on fait abstraction du fait que Becky Lynch est super populaire et qu'on l'adore, etc., c'est quand même elle la heel dans l'histoire, puisque elle est un peu de mauvaise foi. Charlotte, d'accord, elle reçoit un title shot, mais il faut d'abord qu'elle batte Carmella pour l'avoir le title shot. Charlotte, elle gagne le match fair and square. Elle profite d'une inattention de Becky Lynch, c'est pas parce qu'elle l'attaque dans le dos, on est dans un triple threat, hein, donc c'est le risque. C'est vraiment Becky qui est de mauvaise foi, mais comme la plupart des fans sont pour Becky, c'est pas. Donc ce qu'elle a fait, Becky, c'est pas suffisant pour que les gens se retournent contre elle, c'est sûr, et visiblement, ils ont pas du tout envie de se retourner contre elle. Il y a des catcheurs comme ça, Randy Orton par exemple, c'est rare qu'il se fasse suer quand il est heel, même là contre Jeff Hardy, c'est délicat. Et Kevin Owens, il arrive à se faire huer quand même. Jericho, il arrive aussi. Mais c'est parce qu'ils sont un peu plus talentueux. Et je suis pas sûr que Becky Lynch ait ce talent-là. Et puis on sent qu'elle a envie quand même d'être. haut de l'affiche. Et là, c'est réussi. Je veux dire, elle était charismatique en diable sur cette dernière séquence. Il y avait la grosse pop, hein, de la part du public, grosse ambiance. C'était vraiment une très belle fin de show. Alors, qui est heel, qui est face, à la limite, on s'en. Sur un coup comme ça, on s'en bat la race. C'est un peu, ça fait longtemps que la WWE met une ligne trouble entre le entre les frontières entre heel et face. De toute façon, heel ou face ou autre, le public soutiendra Becky. Voilà, c'est ça. Je pense que ça passe pour de la rébellion, une sorte de colère légitime. Limite, les gens sont d'accord avec elle sur le fait qu'elle se soit faite voler. Ben c'est ça, hein, les gens ils voient le fait que c'est leur chouchou qui est pas championne, que Charlotte elle aurait pas dû rentrer dans le truc, c'était normalement l'heure de gloire de Becky. Voilà, du coup c'est pas, ils pourront pas en faire une île, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, coucou à Hank qui est passé dans le chat, hein, pour vous expliquer un peu le retard du podcast. L'important, c'est qu'il laisse ces deux personnes crédibles. Voilà, elles sont particulièrement crédibles là. Il y a un finish qui est du show, où il y a une ferveur dans le public qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les gens ne sont pas endormis, ils sont prêts à hurler. C'est ce qu'on a envie de voir quand on regarde du catch quand même. Et puis c'était particulièrement bien réalisé. Et puis elle était impeccable dans sa gestuelle, dans son charisme, Becky Lynch. Voilà, c'est le moment. Ils vont en faire. S'ils la jouent bien, ils vont en faire une star de Becky Lynch, tout simplement. De toute façon, ça pendait au nez, ça. Elle a toujours été très populaire. Elle a dû laisser sa place un peu. C'était quand même la première championne de SmackDown, donc elle n'a pas été si maltraitée que ça. Mais effectivement, ils avaient les projets Carmella, projet Asuka derrière. Ils les ont tentés, ils reviennent sur elle, et finalement, c'est avec elle que ça marche le mieux. Ça change des babyface à la Bayley, effectivement. J'ai entendu que Charlotte avait fait une promo sur le fait qu'elle va pas rester sur le banc pour sa copine, c'est pas une chief molle. Voilà, ben après, Charlotte, c'est pas. Elle va pas rester sur la touche, effectivement. Hein. Moi, je trouve que Charlotte, c'est la plus grande championne de l'histoire de la WWE. Donc, ça continue sur la lancée. Là, elle a une ennemie qui est à sa mesure. Et du coup, ça va peut-être être une des rivalités de l'année, cette histoire-là, parce qu'en plus. Les gens accrochent, même si on n'est pas sur un alignement heel face au final standard, mais en tout cas il va y avoir sûrement y avoir. J'espère maintenant que Becky Lynch elle va nous sortir un gros match, parce que moi c'est ce que j'attendais là. J'ai pas vu de gros match avec Becky Lynch alors que Charlotte elle en a fait une pelletée. Je pense que ça va jouer là-dessus pour moi, pour savoir si ça restera dans l'histoire cette rivalité. En tout cas, au niveau des weekly, ça se goupille particulièrement bien. Voilà, du coup on a fait le tour de la semaine à la WWE. On va faire le top et le flop pour ce SmackDown. Alors il y avait pas beaucoup de flops. Qu'est-ce qu'on pourrait je sais pas. Ce serait facile de dire Naomi qui est un peu sous-utilisée, mais je pense pas qu'elle soit sous-utilisée moi perso. Ouais, je sais pas, je vais pas donner de flop en fait. Et je fais des records de spectateurs, bah, surtout depuis que t'es arrivé, t'as dû venir avec ta famille. Voilà, tout ça pour m'entendre balbutier. Merci les gars d'être là. Le flop, je sais pas. Si vous avez un flop, lâchez-le-moi dans le chat pour cette semaine, je vois pas. Triple threat tag team pour la finale du tournoi. Je regardais le fait de mettre des triple threat tag team pour la finale du tournoi. Ouais, un tournoi plus long, mais ils ont besoin de rusher pour que ce soit bouclé pour Hell in a Cell, je pense, au tournoi tag team. Donc on va peut-être mettre ça là-dessus. Ouais, tiens, mettons le flop au New Day aux commentaires. Ils sont casse-couilles, on en a marre. Bon, ceci étant dit. Il y aura un NXT tout seul à 19h. NXT tout seul avec Hank à 19h ce soir. Ne le manquez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous mettez sur la petite cloche comme ça. Paf, vous le savez. Eligible mais en flop, Naomi et les Iconics. Ah, c'est sûr que c'est pas passionnant, hein, mais de là à dire que c'est un flop, je parais un peu. C'est un peu dur, je trouve. La story Joe et Jay en flop, Win Green. Mais ça va pas. Colon Club Bar en top. Hein? Win Green, on voit qu'il aime le wrestling. C'est tout. Qu'est-ce qui te plaît pas dans cette rivalité entre Joe et Jay? C'est parce qu'on applique la famille, je suis sûr. Ma foi, c'est pas grave. Tu reviendras nous détailler ça dans le chat la semaine prochaine. Alors, comme je vous ai dit, abonnez-vous, la petite cloche pour être averti dès qu'on sort des podcasts, parce que vous voyez, c'est pas régulier, hein, malheureusement, on n'a pas. Enfin, c'est régulier, on vous sort les podcasts toutes les semaines, mais on n'a pas un horaire chaque semaine, parce que c'est un peu trop compliqué pour nous à gérer vu les emplois du temps de chacun. Donc, si vous mettez la petite cloche, ben, vous êtes averti dès que ça sort. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est aussi sur Facebook, c'est facebook.com slash catchupcdc. Et bien on est sur YouTube, on est sur iTunes, on est sur PodCloud également pour les versions audio. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir dans les commentaires. Il y a le petit lien pour faire le petit versement. Et puis ben on va se retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire un débrief de All-In dès qu'on l'aura vu. Et puis évidemment les weeklies chaque semaine. Et puis on vous débriefera aussi Hell in a Cell. Voilà, je vous remercie tous ceux qui étaient dans le chat hein, de m'avoir soutenu. Vous êtes tous très 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 gentils. Ça fait chaud au cœur. Et ma foi, bah, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao. We'll